Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós, Passagem de Nível, neste domingo, dia 6 de fevereiro. Em mente, voltamos às eleições legislativas antecipadas que tiveram lugar em Portugal no dia 30 de janeiro. Maioria absoluta para o Partido Socialista, o que é que se vai passar daqui para fora. Entretanto, a formação do governo deverá ser anunciada dia 22 ou 23 deste mês. Teremos connosco, via telefone, secretário-geral adjunto do Partido Socialista e antigo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. Depois vamos falar de uma banda desenhada Les Portiers. Trata-se da Odisseia dos Jovens Imigrantes, portugueses aqui em França nos anos 70, uma chegada aqui a salto e para fora com tudo aquilo que isso implica. Falaremos igualmente do filme documentário Ne Fassez pas nos traces de Dominique Grange, une chanteuse engagée, nosso convidado Pedro Fidalgo, realizador e co-autor do documentário Mudar de Vida sob o percurso de José Mário Branco. E depois lugar à música Rock no Mume, de Ninger, retoma o espetáculo para crianças a partir dos 3 anos, entre os dias 9 de fevereiro e 30 de março no Teatro Clavel, em Paris 19. E o autor, compositor e intérprete Sou apresenta um novo trabalho dia 10 de fevereiro na La Seine du Canal, em Paris 10. Mas para já vamos até Portugal. José Luís Carneiro, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar connosco em direto.
Olá, viva, como estão? Meus cumprimentos para toda a vossa audiência e para todos os nossos compatriotas.
Ora, José Luís Carneiro, felizmente, já sabemos o que são as sondagens, mas os resultados que saíram das urnas do dia 30 surpreenderam muita gente. Será que os socialistas ficaram surpreendidos também com esta maioria absoluta?
Bom, nós, de facto, quando partimos para as eleições, entendemos que havia dois sentimentos que estavam muito presentes na vida de todos nós e da sociedade portuguesa. Por um lado, alguma incompreensão pela forma como os partidos políticos na Assembleia da República tinham contribuído para uma crise política que era dispensável numa altura em que o país ainda vive a pandemia e em que estava a dar os primeiros passos para recuperar as condições de vida económica e social, mas ao mesmo tempo um outro sentimento, o sentimento de confiança no Partido Socialista e muito particularmente de confiança no Dr. António Costa. Foi com esses dois sentimentos que partimos para a campanha eleitoral, mas de facto o resultado eleitoral superou as nossas melhores expectativas e, portanto, agora temos uma responsabilidade acrescida.
Ora, será que finalmente, bom, eu vou utilizar uma expressão trivial, mas enfim, será que o PCP e o Bloco de Esquerda deram um tiro no pé? Vendo os resultados que eles obtiveram, na medida em que o Bloco de Esquerda perdeu 2/3 dos deputados, o Partido Comunista, os Verdes desapareceram da Assembleia da República e, bom, e a coligação CDU perdeu a metade dos deputados.
Bom, eu não quero pronunciar-me sobre as decisões dos outros partidos. Compete aos outros partidos fazerem a avaliação da crise política para a qual contribuíram. Efetivamente, o que o povo português disse foi que olha para o Partido Socialista e que olha para o Dr. António Costa como o partido capaz de dar estabilidade ao país, de manter o país com níveis de crescimento acima da média da zona euro e um partido e um governo e uma liderança, nomeadamente a do Dr. António Costa, que procura compatibilizar, por um lado, os valores da liberdade e da autonomia com a necessária preocupação com a justiça social e com uma distribuição justa dos recursos que são de todos, porque só mesmo de forma coesa, solidária, nós seremos capazes de enfrentar os desafios que temos pela frente, que são muito exigentes. E, portanto, o que o povo português disse foi que é no Partido Socialista, é no Dr. António Costa, que confia para levar por diante estes mesmos objetivos de desenvolvimento.
Ora, António Costa, precisamente na noite eleitoral, no dia 30, logo que se souberam os resultados, não eram definitivos, mas tudo levava a crer que havia a maioria absoluta, António Costa teve a ocasião de dizer: não é porque temos a maioria que queremos, quer dizer, que não estamos abertos a outros. O que é que isso pode significar? Porque a outros, quando se diz a outros, eu penso que é para a esquerda, evidentemente, significa que não é porque o PS teve a maioria absoluta que automaticamente diz: somos nós, estamos aqui, temos a isonomia, nós fazemos aqui o que queremos. Continua a haver uma abertura à esquerda?
O que o Dr. António Costa disse, e que vale a pena lembrar e sublinhar, foi a maioria absoluta não é poder absoluto. O que é que isto significa? Significa que esta maioria, que no fundo se traduz numa grande confiança do povo português no Partido Socialista e no Dr. António Costa, dá-nos uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade, primeiro, para dialogar com todas as forças políticas e sociais. Dialogar significa saber ouvir os partidos da oposição no Parlamento, os contributos que têm para dar, e, por outro lado, também em sede de concertação social, quer com os representantes dos trabalhadores, quer com os representantes das empresas e da economia. Ou seja, procurar o justo equilíbrio entre, portanto, aqueles que estão em minoria no Parlamento e que têm também o seu espaço para poderem dar o seu contributo para o desenvolvimento do país, mas também ouvir todas as forças sociais, culturais, económicas, empresariais, e contribuir também para o diálogo institucional. Ou seja, sermos um fator de equilíbrio e um fator de diálogo institucional, quer com a Presidência da República, quer com a Assembleia da República, quer com todas as forças vivas da sociedade portuguesa.
Ora, a Covid está aí, ainda felizmente, já lá vão 2 anos agora, não é? Bom, aparentemente a questão melhora. Portugal está numa situação, bom, que ainda deixa muito a desejar, mas isso não é a culpa do governo, evidentemente. Mas neste contexto, a recuperação económica, há fundos que vão chegar da Europa, isto é válido para os 27, evidentemente. De maneira, quais são os eixos principais, por exemplo, para essa recuperação económica, tendo em conta, igualmente, que houve aumento da precariedade, por causa da epidemia, quais são as linhas mestras daquilo do próximo governo do PS neste aspecto?
Bom, primeira prioridade é mesmo a de continuarmos a trabalhar para vencer esta pandemia e os seus efeitos. Vencer a pandemia não apenas em Portugal, mas também no quadro da União Europeia, e trabalhando na União Europeia, juntamente com outros blocos económicos regionais, para conseguirmos combater a pandemia à escala global. Porque hoje as nossas economias, as nossas sociedades, são economias abertas, e temos que pensar que só é possível recuperar níveis de mobilidade humana, de mobilidade social, quando a pandemia estiver igualmente, digamos, vencida em todo o mundo. Por caso contrário, temos avanços e recuos, porque avançamos na imunização na Europa, mas não avançamos na imunização noutras regiões do mundo. E, portanto, essa continua a ser, tem que continuar a ser uma das prioridades. A segunda prioridade tem que ver com a recuperação das condições de vida económica e social. Para esse efeito, como se sabe, nós temos em curso um plano de recuperação e de resiliência que visa modernizar o Estado, modernizar a administração pública e visa também apoiar as empresas a modernizarem-se, a capacitarem-se, a par do desafio da qualificação da sociedade portuguesa. Porque há dois desafios, dois que são mais evidentes. O desafio climático e da energia é um desafio crucial para a Europa. Veja que nós estamos todos os dias a sentir os efeitos das alterações climáticas. Nós estamos com uma seca já muito expressiva, com falta de água, que põe em causa, nomeadamente, a produção de energia, e que põe em causa também o próprio setor do agroalimentar, e, portanto, trata-se de efeitos, de consequências das alterações climáticas. Portanto, nós encontrarmos mecanismos para que as nossas cidades, as nossas aldeias, as nossas comunidades locais sejam mais resistentes a estes efeitos que se fazem sentir das alterações climáticas é um dos desafios que nós temos pela frente. O outro desafio tem a ver com o desafio da transição digital. Hoje, os Estados e as empresas e a economia têm que se preparar para, o mundo digital que a pandemia, como se sabe, veio acelerar. Ora, preparar as sociedades para estas duas alterações profundas e, ao mesmo tempo, cuidarmos de combater as desigualdades e a pobreza e ainda o desafio demográfico, que é um desafio da Europa, obriga, implica, um grande sentido de cooperação nacional, de cooperação entre todas as forças vivas da sociedade portuguesa, porque são desafios estratégicos que é preciso vencer para que as próximas gerações, as gerações que virão a seguir às nossas, possam ter, condições de vida dignas, condições de vida que se compatibilizem com a transmissão de digamos, de uma sociedade ainda mais justa e mais solidária, mais avançada, mais desenvolvida do que aquela que nos foi legada pelos nossos pais.
Sim, sobretudo, estou a pensar agora no meio ambiente de Portugal, é um dos países na Europa onde as energias ditas verdes, aliás, são mesmo destacadas aqui em França, mas concretamente, relativamente a esta questão, a prospeção e a extração de lítio, tungstênio, urânio. Dizem que o lítio é, digamos, é o ouro. Portugal passa por ser um dos países da Europa que tem maiores reservas, aparentemente. Há muitas reações da parte da população. Será que o novo governo vai novamente consultar as populações, vai ter em conta aquilo que as pessoas pensam? Porque dizem que vão haver estragos enormes ou do ponto de vista ambiental e social. Será um dos temas que o governo vai estar confrontado?
Bom, como se sabe, a exploração de recursos, sejam eles quais forem, devem sempre obedecer a regras. Uhum. Regras, em primeiro lugar, sociais e de proteção social, de proteção das populações, e também regras de proteção ambiental. E, portanto, essa proteção garante-se em diálogo com as populações, em diálogo com as autarquias e também respeitando os parceiros das entidades que têm competência científica para emitir pareceres, nomeadamente impacto ambiental. Uhum. E é nesses termos que o Governo tem vindo a procurar atuar, sem esquecer que esses recursos são muito importantes precisamente para a transição energética, ou seja, o lítio é um recurso importante, nomeadamente para a conservação da energia e para a criação de condições para a conservação da energia produzida a partir de fontes renováveis. Porque, como se sabe, uma das questões da produção de energia não é apenas a sua produção, mas é também a capacidade de reservarmos energia quando ela é produzida. Porque ela é produzida quando há vento, ela é produzida quando há sol, ela é produzida quando há recursos hídricos, mas a questão está depois na sua conservação. Ora, o lítio é um material que permite, com a sua transformação naturalmente técnica e industrial, que permite reservar, garantir reservas energéticas. Ora, Portugal, tendo esse recurso, deve também saber utilizá-lo para fazer face àquilo que são os desafios da sua economia, porque a economia também é importante para criar emprego para as pessoas e para criar riqueza no país.
Bom, e ao mesmo tempo, há que ver, bom, trata-se das baterias dos carros, e o Ministro do Meio Ambiente afirmou que nem uma grama de lítio vai sair em bruto de Portugal. De maneira que isto é um tema que vai ser debatido, penso eu, que vai continuar a falar-se dele. Eu gostaria que falássemos um pouco de imigração igualmente, na medida em que tinham sido feitos um certo número de anúncios, nomeadamente pelo Secretário de Estado das Comunidades, a propósito da criação de novos postos de trabalho a nível dos consulados, de maneira que vai ser um esforço da parte do novo governo, ou pelo menos é isso que deseja?
Sim. Como se sabe, digamos, a política para os serviços consulares tem duas importantes frentes. Uma frente que é do reforço dos meios humanos e da qualificação dos meios humanos nos serviços consulares, mas também uma outra frente que é a frente da modernização. E, se quisermos, também da transição digital aplicada aos postos consulares e diplomáticos. Queria dizer que no plano de recuperação da resiliência há recursos bastante avultados para essa transição digital, o que vai permitir que, no futuro, muitas das locações que os cidadãos portugueses têm aos postos consulares deixem de ser necessárias, porque as pessoas, a partir do seu computador de casa, conseguem aceder a muitos desses serviços, como já acontece hoje aqui em Portugal, com a renovação de muitos dos nossos documentos, ou mesmo até com a emissão de documentos, desde que se faça sempre, naturalmente, com toda a segurança documental.
E a propósito disso, agora aguardamos, a propósito não, tem a ver com os portugueses residentes no estrangeiro, a contagem dos votos está logo dia 9 de fevereiro, de maneira que a proclamação dos resultados finais, teremos que esperar por essa data. Ora, uma última questão, José Luís Carneiro, a extrema-direita tinha um deputado, hoje tem 12 deputados. Vão 48 anos do 25 de Abril, para onde é que vai Portugal?
Bom, o que é importante é que nós sejamos capazes de compreender o que leva as pessoas a votarem em partidos com essa orientação política e com essa orientação ideológica e procurar encontrar políticas que respondam a algumas dessas preocupações, outras há que, não, efetivamente, têm que ser combatidas, naturalmente, tudo o que tenha a ver com a colocação em causa de valores humanos fundamentais devem ser combatidas, essas ideias, mas haverá outras preocupações que levam a que as pessoas votem em partidos dessa natureza e temos que procurar, com as políticas públicas, responder àqueles que, de uma forma generosa também, procuram encontrar alternativas e procuram muitas vezes ter voto de protesto em relação ao sistema político. Como sabe, desde abril de 74, houve sempre aqueles que nunca se conformaram com a democracia e esses continuarão a lutar contra a democracia por todos os seus meios. Mas estamos convictos de que há muitos que não estão nesses que são contra a democracia e temos que procurar compreender as razões pelas quais efetivamente procuram essas opções e procurar responder-lhes com soluções de política às suas preocupações. Por exemplo, uma das preocupações que leva a que muitos cidadãos tenham receio do futuro e tenham receio dos partidos, que têm sido partidos com responsabilidades políticas especiais, tem a ver precisamente com estas transições que vão ocorrendo, com a transição digital, com a transição climática, com as próprias transformações na economia, que muitas das vezes cria insegurança e cria medo sobre o futuro. E muitas das vezes é o medo sobre o futuro e a insegurança que leva a que algumas das pessoas procurem soluções mais radicais. Compete-nos também a todos, a nós, aos políticos, aos professores, aos responsáveis da sociedade, à comunicação social, procurar explicar todos os meios que temos colocado ao dispor do desenvolvimento e ao dispor da democracia e procurar dar resposta às maiores preocupações que os cidadãos vão sentindo.
José Luís Carneiro, em Portugal, por exemplo, esse partido, e não só, a extrema-direita é racista. Não podemos, não se pode dizer o contrário. E finalmente fazem dos imigrantes botes expiatórios de tudo e mais alguma coisa. É a situação que os portugueses que trabalham para esse mundo fora, a começar aqui para a França, são alvo também. A imigração é sempre alvo de... são sempre os botes expiatórios. Ora, Portugal é um país de emigração e de imigração. Como é que essas teorias podem ser ditas assim nas rádios, nas televisões, ser escritas nos jornais? Como é que é possível?
É muito importante aquilo que está a dizer, ou seja, é muito importante que os portugueses que estão cá em Portugal, no território continental, nos Açores e na Madeira, mas que estão também nas diferentes comunidades, se lembrem de que são emigrantes e que nós temos 5,7 milhões de emigrantes e luso-descendentes. E nas sociedades de acolhimento são também imigrantes, com I. E, portanto, quando vemos partidos a falarem contra os imigrantes, devemos lembrar-nos que nós somos também um povo de imigração e que lutamos junto dos países de acolhimento para que eles tenham todos os direitos. Os direitos de acesso à escola, os direitos de acesso à saúde, os direitos à proteção social. E, portanto, assim como exigimos às sociedades de acolhimento esse tratamento digno aos nossos imigrantes, também devemos pugnar aqui em Portugal por acolher os imigrantes provenientes de outros países com os mesmos valores da dignidade humana, porque são esses os valores que fazem com que sejamos uma sociedade decente.
Sim, um Portugal democrático e que respeite os valores do 25 de Abril. José Luís Carneiro, muito obrigado. Lembro-me, secretário-geral de Adjunto.
Muito obrigado eu, muito obrigado à Rádio Alfa também, a todos os vossos ouvintes, a todos os nossos compatriotas. Um grande abraço, saudação e as maiores felicidades para todos.
E contamos consigo depois para poder comentar igualmente os resultados dos votos na Europa e fora da Europa, que é bastante importante, tanto mais que foi secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. Até muito breve. Muito obrigado, então.
Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado.
E nós voltamos dentro de alguns instantes. Passage à niveau en avion au direct, c'est dimanche 6 février. Je rappelle que l'émission est rediffusée dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Mes amis, on va revenir à 1967.
Si je vous dis les héritiers de ceux qui ont...
Si je vous dis au salto, passaporte coelho, comme il disait à l'époque. Tout ça au sujet pour rappeler, parce que la base départ est là, les Portugais, de Olivier Fonsi et de Chico, c'est pas vraiment son nom, mais enfin, c'est une BD publiée par Les Arenas. Mais revenons en 1967. Qui joue et qui siffle aussi, ça c'était la bande originale du film Où Salt de 1967 qui a été réalisé par Christian de Challonge. Olivier Afonso, bonjour, beau tard. Olivier, merci d'être avec nous. Alors, Les Portugais, une bande dessinée faite avec Chico, en réalité c'est Aurélien, c'est ça?
Ouais, il s'appelle Aurélien.
Alors, je vais vous demander le pourquoi. Le pourquoi, parce que bon, vous êtes d'origine portugaise, et pendant longtemps, vous avez dit, bon, mais c'est quoi d'être d'origine portugaise, d'avoir deux cultures, etc. Et cette BD, c'est une façon de revenir un petit peu aux origines, de savoir où est-ce que vous venez, et qu'est-ce que vous êtes exactement, ou pas?
Oui, complètement. En fait, moi, j'ai voulu faire cette BD pour essayer de laisser une trace un peu... pour essayer de parler de l'histoire que moi j'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à savoir ce qui s'était passé, etc. Donc j'ai commencé à faire des recherches, parce que j'entendais évidemment des anecdotes de mes parents, de ma famille, tout ça. Donc j'ai commencé à faire des recherches, et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'en faire une histoire, et surtout une histoire qui permette à beaucoup de gens d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, et une histoire accessible. Et au début, j'ai écrit une histoire qui est inspirée évidemment de faits réels, mais qui est avant tout une fiction, pour pouvoir parler, pour que ça devienne un peu universel, pour que tout le monde s'y retrouve. Et à la base, j'ai écrit cette histoire pour en faire un film.
Oui, vous dites aussi, quelque part, je pense, que les Portugais sont trop pudiques pour parler de leur vie. C'est quoi, ils sont vraiment pudiques, quand finalement ils se disent qu'ils ont honte, et pourtant ils ne sont pas rien, ils n'ont pas à avoir honte.
Je ne sais pas, parce que je peux pas vraiment parler pour à la place de tout le monde, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est évidemment peut-être que c'est pour des personnes, ça serait une forme de honte, mais moi, je trouve qu'il y a une certaine pudeur, parce qu'on ne parle pas forcément de ce qui nous fait souffrir. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ma famille. À chaque fois qu'on parle d'histoires, et même si elles sont tristes, il y a toujours une espèce de sourire, comme de la moquerie, comme si c'était presque un défi aux épreuves passées difficiles. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de narration très positive et toujours une envie de raconter ça en gardant le côté positif des histoires. Donc moi, je traduis ça comme une espèce de pudeur, parce que je pense qu'au bout d'un moment, les gens aussi, ça leur appartient, c'est des histoires qui leur appartiennent, quoi.
Alors, un peu plus tard, on parlerait de à qui appartient cette histoire. Bon, alors, Mario, c'est lui, 18 ans. Il se trouvait dans un porte-bagages d'une voiture avec un passeur, et le passeur le lâche dans la nature. Et donc, et à partir de là, bon, c'est là que ça démarre la BD. Et à partir de là, il y a tout un tas de choses qui sont passées. Je pense que la plupart de nos auditeurs, tout au moins les plus anciens, peut-être qu'ils auront raconté leur histoire à leurs enfants, et pourquoi pas qu'ils doivent les raconter aussi aux petits-enfants. Et après, c'est tout un périple, hein, finalement, une fois qu'on est à la frontière espagnole, franco-espagnole, il y a tout un périple avec tout un tas d'opportunistes, mais entre-temps, il y a Nel qui arrive. Alors Nel, c'est un compagnon de route, finalement, pour Mario, mais c'est quelqu'un de spécial, Nel.
Oui, en fait, Nel, pour le coup, c'est un personnage complètement fictif. Il s'est inspiré de beaucoup de choses, beaucoup de personnes, de moi aussi. C'est-à-dire que des questions que je me posais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est face à on peut se poser la question de savoir quel chemin on va prendre. Est-ce que c'est le chemin de la légalité, ou est-ce que c'est le chemin de l'illégalité, des magouilles, des astuces, et de façon un peu très illégale de pouvoir vivre sa vie et gagner sa vie. Mmh. Et donc c'est un peu le, autant Mario est inspiré de mon père et surtout de son caractère et de ce côté très toujours doux et à l'écoute, presque silencieux et très laconique, c'est-à-dire qu'il ne parle que quand il faut parler. Et ben je devais avoir un personnage qui était son opposé.
Complètement. Ouais.
Voilà, mmh. Qui peut être aussi un atout majeur quand Mario lui se trouve face à des problématiques ou parfois où il est complètement dans l'erreur. Parce que même dans un pendant négatif, il y a toujours un peu de positif.
Oui, d'ailleurs, il suffit de... bon, il y a quelques... Par exemple, il a accepté un travail, c'est dur, c'est mal payé, etc. C'est ça, tout ce qu'on veut. Bon, mais il dit, bon, écoute, c'est peut-être mieux que... Bon. Alors, justement, il y a le salt, donc passer la frontière. Après, bon, il faut arriver... d'ailleurs, même avant d'arriver à Paris... Ils tombent dans un endroit complètement perdu. On leur offre du travail, mais quel travail, des conditions de vie vraiment comme si on est, c'était du bétail. Mais après, on trouve tout. L'arrivée au bidonville. Les passeurs sont des tricheurs, des voleurs. Alors, les patrons voyous. Et là, c'est un truc quand même extraordinaire. Le bidonville, travailler sans papier, l'inspection du travail. Qui va sur les chantiers, alors avec un petit enveloppe, on ferme les yeux. C'est-à-dire, c'est qu'avec votre BD, vous arrivez à retracer finalement, disons, le parcours de dizaines et dizaines de milliers de Portugais.
Oui, l'idée c'était ça, c'est d'être universel et de raconter ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive dans une situation où on est en demande et on est fragile, bah, on est confronté à des gens qui vont utiliser cette fragilité. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, tout était normal. Et moi, la phrase que j'entendais beaucoup quand j'étais petit, c'est, bah, c'était comme ça. C'était comme ça. C'est-à-dire que le racisme, c'était comme ça. Parce qu'à l'époque, on l'envisageait pas comme du racisme. Moi, j'ai vu, quand j'étais petit, je voyais des gens tâter les muscles de mon père, taper dans son dos, comme si c'était un animal, un cheval de trait. Et moi, quand j'étais petit, j'étais fier, parce que j'ai l'impression que c'était pour dire que mon père était fort, costaud. Et
d'ailleurs, on regardait même les dents comme les chevaux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il fallait regarder s'ils étaient en bonne santé. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui a pu choquer des gens, dire, mais c'est pas possible, ça se faisait pas. Mais si, ça se faisait, parce que c'était quelque chose de normal. Ça se faisait parce que c'était normal. C'était pour voir si les gens étaient en bonne santé. Mmh. Et on se gênait pas pour leur demander de retirer leur chemise pour voir s'ils étaient musclés, s'ils allaient supporter le travail, etc., etc.
Mmh. Alors, mais revenons un petit peu à Nel. Mmh. Parce que, bon, vous parlez parce qu'il faisait des trafics, etc., etc. Mais dans les bidonvilles, il y avait des Portugais qui louaient des baraques, il y avait des Portugais qui avaient la petite épicerie, etc., etc. Bon, celui-là, il faisait des trafics, il vivait aussi de,
évidemment,
d'exploiter les autres.
Évidemment. Et ce qui est intéressant avec cette bande dessinée, c'est que ça a permis à des gens de s'exprimer, à raconter. Parce qu'il y a des gens qui arrivaient et qui n'avaient pas spécialement de compétences. Et ils se sont dit, tiens, je vais utiliser les compétences des autres. Donc, c'est une façon de travailler. Mais ils le faisaient, à l'époque, on peut considérer que c'était exploiter la misère des autres. Mais eux aussi, quelque part, ils étaient dans une misère et ils ont essayé de trouver des solutions. Et c'est pour ça que moi, je veux pas leur jeter la pierre. Et c'est pour ça qu'il y a un personnage aussi que je développe et que je raconte. Et parce qu'on est tous confrontés à des problématiques et on essaye de s'en sortir comme on peut. Mmh. Et c'est une réalité. Ça, c'est sûr. Il y avait des gens qui ont exploité cette misère et qui étaient d'origine portugaise aussi.
Ça existe encore. Hein.
Oui.
Avec les travailleurs qui viennent ici avec des conditions de travail énormes qui sont pas très légales en plus. Bon, ça continue aussi cette exploitation. Oui, oui. Alors, la BD. Les couleurs, quelque chose ça m'a étonné, c'est que c'est pas sombre, mais enfin, il y a un gris. On sent comme si les couleurs de l'album... Bon, ça c'est Aurélien, n'est-ce pas?
Non, c'est Émilie Rouge, c'est une coloriste en fait.
C'est coloriste. Ouais. Alors, pourquoi le choix de ces couleurs, à part la couverture, hein, pourquoi le choix de cette couleur sombre? C'est parce que c'est pour renforcer un petit peu le récit?
Alors moi, à la base, de toute façon, je voulais une bande dessinée colorée parce que la couleur appelle est plus comment dire c'est un appel, c'est une invitation, c'est plus facile parce que le noir et blanc, il y a un côté un peu dur et ça renforcerait le côté sombre des histoires. Mmh. Après, c'est vrai qu'il y a des teintes un peu grises, un peu plus pastelles, etc. Parce que moi, les récits que j'entendais, c'était beaucoup, ça se passait dans des conditions difficiles. Il y avait du froid, il y avait la neige, il y avait la pluie, il y avait la boue dans les bidonvilles. Il y a le béton aussi, le bout de béton qui est très gris. C'est une ambiance qui est très grise, en fait, tout ça. Et les touches de couleur sont essentiellement sur certains personnages. Et après, quand on racontait, et les seuls moments de distraction, il les passait quand il ne travaillait pas. C'était la nuit. Donc la nuit, elle était éclairée par les bougies, par les lampes à pétrole dans les bidonvilles, mais aussi Paris. Paris, c'est une ville qui est très lumineuse, et c'est l'électricité, etc., etc. Et donc, le choix des couleurs, c'est avant tout pour ça.
À propos de béton.
Ouais.
Bon, parce que les travailleurs, ils étaient clandestins, donc tout ils n'avaient pas de papier. Et à un moment donné, Mario, il pose la question, je me souviens plus, c'est Tonio, je ne sais plus. Ben, c'est vrai qu'il y a des compatriotes à nous qui ont été collés dans le béton. Bon, pourquoi ça apparaît
Alors moi, c'est un truc que j'entendais beaucoup. J'entendais beaucoup quand j'étais petit. J'entendais des histoires où justement, il y avait des personnes qui disparaissaient, qui tombaient dans le béton, etc. Et comme c'est quelque chose qui m'avait marqué étant petit, on m'avait raconté même que il y avait au moment où on coulait des dalles de béton, les machines allaient tellement vite que si quelqu'un tombait dedans, on pouvait pas arrêter les machines. Donc voilà. Et comme cette histoire, j'ai voulu que ça soit une histoire, une aventure, pour que ça parle aux gens et que ça soit pas un récit d'anecdotes. Eh ben j'aimais bien cette histoire qu'encore qui est ce côté qui rappelle un peu les business, les histoires de gangsters ou les malfrats couler les gens dans le béton quand ça allait pas, etc. Et donc j'ai essayé à la fois mélanger cette histoire que j'entendais quand j'étais petit et cet univers de films dans lesquels on entendait des gens couler dans le béton.
Alors au milieu de tout ça, pratiquement bon, un petit peu plus que le milieu, 25 avril 74. Alors là, ça a été bon. On voit des images. Mario, qui comprend pas ce qui se passe, etc., etc. Mais on sent dans votre scénario qu'il y a des Portugais qui se disaient, c'est quoi le 25 avril? Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal? Où est-ce qu'on en est?
Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment au courant de ce qui s'est passé. Même moi, j'ai dû faire des recherches parce que je voulais pas raconter de bêtises. J'ai été surpris de me rendre compte qu'il y a des gens qui savaient pas que Salazar était mort en 74. Et que c'était le régime de Salazar, en fait. Et toutes ces informations, en fait, je me suis rendu compte que, au final, moi le premier, parce que moi j'ai fait des recherches, mais il y a plein de gens qui n'étaient pas vraiment au courant de ce qui s'était passé, quoi. Et qui le sont toujours pas.
Et les gens qui, à l'époque, ils avaient peur, hein.
Non. Et en plus, les informations, c'est pas comme maintenant. À l'époque, pour aller chercher des informations, il fallait quand même y aller, quoi. Parce que on trouvait pas les informations aussi facilement que maintenant.
Alors, revenons au personnage et au dessin de Chico. Quelque chose que j'ai trouvé étonnant, c'est que, bon, alors, Nel, alors, il a un visage en nez pointeux. Toujours avec la cigarette au bec, il y a toujours la fumée. Mario, les cheveux longs, mais enfin, son visage, il est pas si, on a du mal à le cerner, mais il y a quelqu'un qui a des traits très fins. C'est la seule personne, c'est Eva.
Oui,
ça a été exprès, ça.
Ouais, c'est un personnage qui m'a inspiré de ma maman, donc avec Chico, on avait très envie de faire un personnage très, qui tranche avec les autres, justement, avec des traits fins, etc. Et ma mère est quelqu'un de très très vive, très nerveuse et c'est très fin, raconte ça, mais en même temps c'est très beau. Et moi je voulais raconter cette beauté, ce contraste aussi avec Mario qui a des traits plus solides, plus fermes, avec un nez plus fort, etc. Et oui, évidemment c'est un gros clin d'œil à ma maman et je voulais qu'elle soit élégante et belle, quoi. Voilà.
Ouais, d'ailleurs, c'était elle la seule qui a les pieds sur terre. C'est le cas de le dire, les pieds bien
ancrés au sol. Ouais.
Ancrés au sol.
Ouais,
ouais.
Ouais, c'est vraiment deux personnages aussi. Mes parents, c'est amusant parce que ils se complètent, mais ils sont très différents.
Et c'est ça.
c'est ça la complémentarité, ouais, tout à fait.
Alors la naissance, bon, c'est votre naissance, bon, ma foi, ouais. Comme voyez ou pas, parce que Mario, c'est le prénom aussi de votre papa, je crois.
Ouais.
Et alors, vous arrivez à la clinique, déjà, j'ai l'impression que vous avez été reçu un peu n'importe comment, mais avant de rentrer dans la chambre et de voir votre enfant, il y a des infirmiers, je crois, qui se baladent dans le couloir. Alors, ils reprennent un dessin qui est paru, journal L'Équipe, quand l'Olympique de Marseille a été éloigné, bon, là, je pense que c'est la Ligue des Champions, un truc comme ça, par les Portugais de Benfica. Vous vous rappelez exactement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il disait?
Alors, je me rappelle pas, mais je pense que ça peut être assez proche. Allez-y.
Alors, un Portugais, quand il est jeté du ventre de sa mère,
c'est ça.
S'il reste collé au mur, il est maçon. S'il tombe par terre,
il est carreleur. Ouais, ouais, c'est, en fait, moi, j'ai voulu, j'ai voulu faire un clin d'œil à tout ça parce que je me suis rendu compte que, comme moi, il y avait beaucoup d'enfants, d'immigrés, et même des immigrés tout court, qui entendaient toutes ces histoires, et nous, on est condamnés à sourire et à en rire quelque part. Et je voulais que, justement, Mario, aille retrouver son enfant qui venait de naître auprès de sa maman, donc sa femme, et que, justement, cette histoire lui glisse dessus. Et qu'ils s'en fichent, en fait. Que ça soit quelque chose qu'on a vécu et qu'on accepte. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert. Je pense qu'on peut rire de tout, etc. Mais à partir du moment où ça blesse les gens, il faut faire attention, quoi. Et là, moi, j'aime bien ce côté désinvolte et complètement indifférent à ces blagues qui sont pas drôles, au final, quoi.
Vous croyez que c'est fini, là, les taux sur les morues?
Non, c'est pas fini.
La concierge, le maçon.
Non, c'est pas fini, mais j'ai l'impression que quand même, que c'est un peu moins fort que quand j'étais petit. Parce que maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que cette nouvelle génération en souffre moins, mais c'est à eux qu'il faudrait demander. Mais c'est sûr que les stéréotypes ont la dent dure.
Vous êtes d'origine portugaise quand même, donc.
Oui, mais je parle des gens plus petits que moi. Parce que moi, je l'ai vécu étant petit. Et c'est vrai que c'était pas cool, c'était pas agréable.
Non, mais avec vous, on avait peur, mais votre sœur, non.
Alors ma sœur, ouais, m'a raconté qu'elle avait des copines qui préféraient dire qu'elles étaient italiennes ou espagnoles que portugaises parce que ça passait mieux. Et mais c'est vrai que c'est quelque chose dont beaucoup de gens ont souffert. Et je voulais en parler justement.
Alors Olivero. Olivero. Bon, comme d'hab pour ceux qui ont eu des enfants, devrait savoir l'enfant quand il naît. Bon, si on a la chance d'être avec la maman au moment de l'accouchement, les choses sont plus faciles parce qu'on est sur place. Autrement, quand on va voir l'enfant, il y a l'infirmière qui se pointe. Bon, alors registre civil. Bon, il faut qu'on déclare l'enfant à la mairie, etc., etc. Et l'infirmière demande. Alors, vous avez choisi un prénom. Alors, il y a un qui apparaît. Olivero.
Olivero.
Ouais. L'infirmière regarde, bon, bah, Olivero. Écoutez, de toute façon, c'est à vous de décider. Mais pourquoi pas l'appeler Olivier?
Bah, en fait, oui, c'est ça, parce que moi, comme beaucoup de gens, en fait, il y avait cette volonté de s'intégrer dans un pays. Et la question, c'est en fait, je parle de cette fin qui est vraiment une vraie fin. Et qui est vraiment pas ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, la question de savoir pour l'intégration, est-ce qu'on ne va pas plutôt lui donner un prénom français pour ce qui s'intègre plus? Et c'est une vraie histoire. Et ce qui est dingue, c'est que ça fait écho à en train de se passer dans les actualités avec ce que racontent certaines personnes que je nommerai pas, etc.
Moi non plus.
Et c'est arrivé à plein de gens. D'ailleurs, hier, j'ai fait une dédicace. Il y a un monsieur qui m'a raconté, qui n'avait pas lu le livre, qui m'a raconté cette histoire qui lui concernait lui aussi. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est arrivé dans la déclaration en France, mais aussi au Portugal. C'est-à-dire au Portugais, ils me demandaient un prénom portugais. Ce qui fait que pendant longtemps, j'étais Olivier en France et Olivero au Portugal.
Alors, je me permets quand même de lire, hein, parce que je peux le dire par cœur, parce que, mais enfin, justement, Mario et Eve se posent la question, mais Olivier, je sais pas quoi, mais par rapport au Portugal, on n'a pas de photos, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais la conclusion, mais on peut raconter, on a des histoires à raconter, on peut raconter des histoires. C'est ça le fondamental.
Eh bien, c'est le but de ce livre. C'est qu'en fait, les gens, ça les invite à raconter leur histoire et que ça puisse ouvrir des discussions et raconter leurs histoires à leurs enfants, à leur famille, pour que nous aussi, on arrive à les transmettre.
Alors, Olivier et France, bon, votre histoire, bon, un de ces jours, on va faire une émission là-dessus avec les filles des ballons. C'est un film que vous avez réalisé. Alors, réalisateur, scénariste, décorateur, directeur artistique, effets spéciaux, maquillage, etc., etc. Bon, qu'est-ce que vous faites pas, c'est le cas de le dire? Parce que tout ça, c'est lié au cinéma.
Malheureusement, je ne joue pas de musique. Ah. Ça, c'est un grand regret. Ouais. Mais c'est vrai que je suis un touche-à-tout parce que je suis curieux de tout et que j'ai envie. Et puis, quand on vient de nulle part et qu'on n'a pas vraiment de raison d'être là, bah, c'est là qu'on se donne les moyens de faire plein de choses, quoi.
Alors, non, le titre, c'est des défis avec des ballons pour l'interrogation. Je le dis en français parce que mon anglais, il va pas loin. Alors, CLSFX, Atelier 69.
Oui.
C'est quoi ça? C'est quelque chose qui a été créé en 2002. Je pense que vous êtes un des cofondateurs, c'est ça?
C'est ça, ouais. En fait, j'ai un atelier de maquillage effets spéciaux avec deux autres partenaires, Guillaume Castagnier et Frédéric Lenné. Et il y a deux autres personnes qui s'appellent Laetitia Elion et Nicolas Arlin. Et à nous cinq, en fait, on formons le CLSFX Atelier 69. Et on fait des maquillages effets spéciaux pour le cinéma, essentiellement.
Alors, si je vais voir la liste.
La liste des films?
Des films, oui. Je pense que là, c'est pas complet.
Pas voir, bon, c'est de la journée.
On va avoir une bonne quarantaine, un truc comme
ah
ça.
Ah non, il y en a beaucoup plus.
Beaucoup plus. Bon, voilà, je parle des papiers que j'ai devant.
Ouais.
Donc, ça veut dire, bon, vous faites un travail important au niveau des maquillages, effets spéciaux, etc., etc., mais en règle générale, c'est en metteur en scène qu'on dit, bon, vous avez fait un très bon travail.
Ouais, c'est un travail où on accompagne beaucoup les réalisatrices et les réalisateurs. Et
j'ai besoin d'un four au bras, fausse jambe, je m'adresse à vous.
Ah, complètement. Vous pouvez venir chez nous, faux bras, fausse jambe, transformation physique, tout ça. Tout ce qui est vrai, c'est chez nous.
Mais il y a quelque chose qui, c'est pas pour rien que vous êtes accroché à l'image.
Complètement.
Le cinéma, est-ce que la BD, bon, finalement, ça complète un petit peu, comment est-ce que vous...
Bah, en fait, moi, je pense que j'ai réalisé, il y a très peu de temps, en parlant avec une amie, que c'était vraiment les histoires qui m'intéressaient. Et que ça soit dans le maquillage, que ça soit dans la BD, ou même en réalisant le film de Girl with Balls, je le dis moi. c'est l'histoire qui m'intéresse. Donc, raconter des histoires, c'est ce qui me motive aussi bien dans le maquillage que dans la bande dessinée, que dans les films.
Alors, j'ai perdu un papier parce que je sais que vous allez faire une présentation.
Je vais faire une présentation. De la bande dessinée.
De la bande dessinée. Non.
Alors, nous, on a fait les présentations. On a fait deux présentations hier et avant-hier. Après, on a. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On a une présentation à Bruxelles qui va arriver bientôt. Il y a France 3 qui nous a contactés.
Et à la Corse aussi.
Où ça?
La Corse.
À la Corse. Ah,
Corse.
Oui, à la Corse. Oui, en Corse, oui. Mais tout ça, en fait, c'est des propositions. Maintenant, il n'y a rien de concret, mais au fur et à mesure, on a un compte Instagram qui s'appelle Les Portugais BD, où on va mettre les informations au fur et à mesure. Et si les gens veulent se procurer la bande dessinée, elle est partout. On peut même la commander sur Internet. La maison d'édition qui est Les Arènes est une maison d'édition incroyable. Moi, je me sens très très bien. Les gens sont géniaux et ils sont super disposés à donner toutes les informations que les gens recherchent.
Moi, je propose qu'on le commande dans le libraire d'à côté.
C'est l'idéal. L'idéal, c'est d'aller voir son libraire pour lui permettre de vivre un peu mieux et de lui demander. Et s'il l'a pas, bah, il faut lui demander et je pense qu'il se fera un plaisir de le commander.
Donc, un compte Instagram, et pour ceux qui vont sur Facebook, bon,
il y a Olivier France, vous me trouvez
les Olivier Arènes, j'en passe les meilleurs.
Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent avec des comptes Instagram, etc. Il y a beaucoup de personnes descendants du zoo descendant qui soutiennent la bande dessinée, donc ça fait très plaisir.
Il y a d'ailleurs au Portugal, il y a déjà plusieurs articles.
Ah oui, mais il y a la RTP qui m'a interviewé avec un... ça fait très longtemps que je parlais pas portugais, donc pardon pour les fautes.
Vous avez été piégé.
Ouais, et j'ai mon éditeur, Laurent Muller, qui est un homme incroyable, qui est déjà en train de trouver des personnes qui vont l'adapter en portugais. Donc voilà. Il va être édité en portugais. Parce que j'ai une grosse demande aussi.
Yopi.
Bon. Donc c'est un super plaisir.
Olivier France, merci.
Merci
également
vous.
À Chico, et merci... à Mario et à votre papa et votre maman, parce que vraiment, c'est grâce à eux.
Ouais, et je les aime fort, et merci à eux. Ouais, sans eux, il n'y a pas de BD, il n'y a pas de moi surtout. Et donc, un bisou à ma sœur aussi.
Les Portugais, une BD, Les Arènes. Les Arènes, BD. Ça tombe bien. Bon, on arrive à la fin de la première heure. Je rappelle que l'émission est rediffusée dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de 0h. À plus tard.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de Passage à Niveau, ce dimanche 6 février. Je rappelle que l'émission est rediffusée dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. On va au cinéma, mais notre aller au cinéma passe aussi par ne pas oublier le passé. N'effacez pas nos traces.
Les héritiers de ceux qui en mai 68 criaient « CRSSS, il ne faut pas se contenter de mettre les drapeaux aux fenêtres le 14 juillet » et de chanter la Marseillaise à la place de l'Internationale. Je veux tourner la page de mai 68 une bonne fois pour toutes.
Sarkozy a dit dans un discours qu'il fallait liquider l'héritage de mai 68, qu'il s'en garde bien. D'abord parce que cet héritage ne lui appartient pas, il appartient aux gens qui se sont battus. Donc il n'y a pas d'héritage pour lui, l'héritage il est à nous. Pour moi, c'est le mouvement social qui marque mai 68 avant tout.
N'effacez pas nos traces. Tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs.
N'effacez pas nos traces, Pedro Fidalgo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça y est, le film est fait parce qu'on a, bon, on a vu le bébé avant même qu'il sorte de, c'est le cas de le dire. Je dis pas du ventre de la maman, mais enfin de votre travail. À la mesure, ça a été, bon, pour produire ce film, ça a été vraiment, je dis pas difficile, mais il y a tout un travail qui a été organisé en amont, justement, parce qu'il fallait trouver le financement. Donc c'était des mois et des mois de lutte.
Oui, c'était un travail de plusieurs années, effectivement, qui a été, donc il ne faut pas l'oublier, autoproduit avec le soutien collectif d'une centaine de personnes. Donc c'était vraiment un projet collectif où vraiment les gens sont mis dedans et ont participé de manière volontaire. Et voilà, on est très contents du résultat et on n'a pas encore de date de sortie officielle. À dire, à donner aux gens pour l'instant, mais il y a des projections, des avant-premières, un peu à gauche, à droite, qui commencent à se préparer, notamment la semaine prochaine, samedi 12 février, au cinéma La Clé, que je rappelle, c'est un cinéma qui est occupé et qui résiste pour la survie de la salle. Donc, le film, dans le contexte de soutien à l'occupation du cinéma La Clé, sera projeté, si l'expulsion n'a pas lieu d'ici là, à 20h samedi prochain au cinéma La Clé Revival, métro Sancier, vous cherchez l'adresse sur internet facilement.
Alors, Pedro Fidalgo, vous avez réalisé là en collaboration avec Nelson Garrett déjà un film documentaire cette fois-là, c'était Mudar de Vida, sur le parcours de José Mário Branco. Alors là, on change un petit peu, je dis pas d'hémisphère, bon, bien que José Mário Branco, c'était le fascisme au Portugal, c'était l'exil en France, c'était la chanson, c'était parce que la chanson, c'est aussi, d'ailleurs, comme dit de Dominique Grange, c'est une façon, c'est lutter aussi, et de quelle manière, parce qu'il y a un discours, je ne sais plus qui m'a dit ça, c'est elle au Tardi, justement, qui m'a dit, un discours, bon, les paroles s'envolent, mais avec une chanson, on dirait que les choses marquent davantage. Donc, n'effacez pas nos traces. Dominique Grange, une chanteuse engagée. Alors, elle vient de Lyon. Donc, et avec ce film documentaire, disons, c'est de mai 1968 jusqu'au Gilet jaune tout récemment, la cause palestinienne, la résistance à l'état policier, le droit d'asile, la cause animale, finalement, c'est des choses, bon, c'est des décennies, mais en même temps, des thèmes énormes.
C'est justement ça l'idée du film, c'est que au-delà des envies de Nicolas Sarkozy de vouloir balayer les traces de mai 68, comme il disait dans son discours il y a quelques années, ce qu'il y a aussi, c'est que les traces du mouvement social, elles sont bien ancrées dans la culture populaire, et que, et ça il faut pas le rappeler, que dans une époque confuse comme celle qu'on vit aujourd'hui, où beaucoup de choses ont tendance à perdre un peu le fil de ce qui était et ce qui sont l'objectif de certaines luttes sociales, là c'est aussi remettre à travers la chanson et à travers le parcours de Dominique Grange, bien sûr, rappeler et revenir sur la ligne politique qui a été menée depuis même la Commune de Paris jusqu'à nos jours pour une émancipation des gens de toutes les dominations qui nous apparaissent dans le quotidien, au travail, soit dans les rapports sociaux, le racisme, la violence faite aux femmes, etc. Donc tout ça, c'est de manière joyeuse, et c'est que ça soit joyeuse et pas uniquement lourde à écouter et à entendre. Donc par la musique, il y a quelque chose de plus ludique, de plus facile aussi, c'est comme Dominique dit dans le film très bien, une chanson, c'est une arme qui peut passer des frontières, des murs, des prisons. Elle peut aller partout parce qu'elle est immatérielle, enfin qu'on la connaît. La chanson peut être chantée n'importe où, à n'importe quel moment, et c'est quelque chose d'universel dont tout le monde peut s'emparer.
Et d'ailleurs, chaque chanson, bon, chacun de vous est concerné, encore est grève illimitée, c'est illustré par des images actuelles, hein, qui ont été réalisées par vous, et pas seulement, parce qu'il y a même Joseph Vierre, je crois, qui a des images à lui. Donc c'est important, les chansons rentrent dans un contexte bien déterminé.
Oui. Effectivement, Joseph Vierre m'a aidé pendant le confinement, dont j'avais besoin d'un plan de la ville. Et il m'a pu filmer sa jolie fenêtre en plan, que j'avais besoin pour le film, je ne pouvais pas parce qu'on était confinés, on avait besoin d'avancer sur le montage. Et voilà, il avait fait quelques images de son balcon, et je trouve que c'est assez important aussi de l'aide qui peut arriver dans un moment où on se dit comment on règle cette solution. Si tu veux, j'ai une caméra pareille à la tienne, on peut s'en faire une comme ça. Et en fait, on arrive à contourner, à trouver des solutions à distance aussi, et ça c'est quelque chose, l'énergie, la réactivité des gens, c'est importante. Mais surtout les images de manifestations qui sont dans le film sont des images que j'ai filmées moi-même, toutes, à part celles qui sont très très anciennes, effectivement, mais ça sent qu'il y a des archives. Mais toutes celles du CPE jusqu'à nos jours, c'est depuis mon arrivée en France, on va dire, c'est des images que j'ai pu filmer moi-même, et je voulais pas ancrer uniquement les luttes dans quelque chose qui serait ce qui s'est passé en 70 ou du passé, et revenir toujours rappeler et que les traces sont toujours là, que les mouvements, les jeunes ne sont pas arrêtés, et que depuis, les choses continuent. Cette espèce de dichotomie au moment des images du présent pendant qu'on parle sur 68, c'était un pari posé, et que je pense que à ce que je vois et les réactions des gens, ça a été réussi.
Alors, il y a la chanson « Abat l'État policier », je pense qu'elle a été composée en 1971-72, mais justement...
Non, c'est 68.
68, pardon. 68. Et voilà, et quand on repasse cette chanson-là, et à la répression contre les manifs des Gilets jaunes, bon, finalement, je ne sais pas combien de décennies après, bon, il y a des choses qui persistent.
Effectivement, la question qui se pose aussi dans le film, c'est la question des classes sociales. Mmh. C'est que, effectivement, de nos jours, on ne parle pas beaucoup de l'abolition de la propriété, de la lutte des classes. C'est quelque chose qui est un peu remis en deuxième plan, même par les partis qui se sont fait représenter un peu la gauche et les causes sociales. Effectivement, aujourd'hui, on ne met plus toutes ces choses sur la table. On parle beaucoup d'autres luttes importantes aussi, bien sûr. Mais la question de la domination de classe, l'affrontement du pouvoir et l'État n'est pas trop remis en question de nos jours dans les programmes politiques. Donc dans le film, c'est important aussi de revenir sur quelque chose qui est là, ancré, qui n'a pas été perdu, qui perdure. Et depuis, bien sûr, on parle depuis 1789, la Commune de Paris, 36, 68, jusqu'à nos jours.
Alors, parallèlement, bon, il y a Tardy, ça c'est très important, parce que la caméra suit également pour les séances d'enregistrement du disque, chacun de vous est concerné, et du spectacle Putain de guerre. Alors, quand on parle de Putain de guerre, il faut dire que Tardy a écrit, et bon, c'est un dessinateur, plusieurs livres là-dessus, sur la première et la deuxième guerre, et ça c'est très important de faire le lien entre les deux choses, finalement.
Sur les guerres et les albums de Tardy sur la guerre, ce qu'il y a dans le film, c'est un spectacle qui a été monté avec Dominique et les Accords Zéam, le groupe qui accompagne les chansons de Dominique, qui interprète des chansons sur la guerre. Et ce spectacle, qui mélange dessin et chansons, ça a été utilisé dans le film, ça a été filmé justement pour faire un pont sur quelque chose d'important, ce qui est dit dans le film par Tardy et Dominique, c'est que si on ne comprend pas cette guerre, la Première Guerre mondiale, on ne comprend pas le monde d'aujourd'hui. Effectivement, la Première Guerre mondiale, c'est au moment où aussi la carte a été redessinée après, avec toute une série, c'est la fin de l'Empire ottoman aussi, il y a toute une série dans le Moyen-Orient aussi, des coupes de frontières. Et ça, c'est, aujourd'hui, si on a encore des guerres et des problèmes au Moyen-Orient ou ailleurs, on ne peut pas oublier que cette redéfinition de la carte par des intérêts coloniaux, c'est pas dit comme ça dans le film, mais c'est un peu l'idée que j'ai essayé aussi de faire passer, parce qu'on parle après de la guerre, on parle d'autres situations, notamment les réfugiés, des choses qui se passent aujourd'hui. Et effectivement, cette guerre, elle est importante de la rappeler et de savoir que ça existait, et toujours une guerre menée par des industriels, par des gens de pouvoir, par des intérêts capitalistes qui en vont au casse-pied toujours les mêmes, c'est-à-dire les paysans, les pauvres de l'époque, qui étaient envoyés sur le front.
Alors, ce spectacle Putain de guerre, c'est Tardy qui lit les textes, c'est Dominique Arange qui chante. Et curieusement, quand ils ont présenté ce spectacle à Montréal, c'était dans les installations d'une association portugaise. Quand j'ai dit ça à Dominique Grange, elle m'a pas cru. Bon, je lui ai donné les papiers. Donc, le monde est petit, c'est le cas de le dire. Alors, puisqu'on parle du Portugal, qu'est-ce qui va se passer le 26 février à 18h, mal de teste? Zemário Pirata, c'est quoi exactement?
C'est rien à voir avec le film. C'est un événement qu'on va partager, sur lequel je n'ai pas beaucoup plus d'informations, au-delà de ce que j'avais un peu partagé aussi sur les réseaux, c'est qu'il y a une chorale, une réinterprétation de chansons de José Mario Branco par d'autres artistes pour lui rendre hommage, organisée par un collectif libertaire au Portugal. Et il y a à Porto aussi une autre date, là je ne l'ai pas en tête, mais oui, en effet, il y a ça. Je dirais que c'est important de faire le lien entre José Mario et Dominique, c'est que le 22 avril, il y aura une projection à Coimbra, Casa do Cinema, à 18h, Modar de Gida, et à 21h, mais ça c'est pas notre âge. Donc ça peut faire un lien entre les deux films et les deux chanteurs. Hein, donc José Mario au Portugal, Dominique, chanson française, tous les deux chanteurs engagés. Et c'est un peu ce qui relie un peu mon travail aussi, autour de la chanson engagée. Je fais bien filmer l'idée qu'on peut porter sur un regard, sur un artiste qui met un peu son art au service aussi d'une cause... une cause qui nous mène à être le vecteur de mobilisation dans le travail. Donc, ce qui fait que la chanson engagée, elle est abordée dans les deux films, de manière historique et de manière aussi de passer un portrait aussi des artistes. Donc, ça, ça peut être intéressant si les gens veulent voir les deux films à Coimbra, ceux qui seront là-bas, le 22 avril.
Entre-temps, il y a une autre date. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Dominique Grange et Tardy au sujet d'une BD. Bon, les textes, c'est de Dominique Grange, les dessins de Tardy. Il paraît que cet album-là va être présent au mois de mars, si ça change pas à cause de la Covid, dans le festival de BD d'Angoulême. C'est vrai que le film pourrait y être aussi?
Oui. J'ai pas encore d'heure à annoncer, mais oui, ce sera le 18 mars, c'est prévu que le film soit projeté au festival de bande dessinée d'Angoulême.
Pedro Fidalgo, merci. Donc, on se donne rendez-vous. C'est le 12, hein? Donc samedi prochain.
Oui, samedi prochain. Si d'ici là, l'expulsion n'a pas lieu, donc soyez attentifs avant. Si vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe à la clé, je vous invite à vous informer, à suivre un peu ce qui se passe, à y être présent tous les jours. Il y a pendant l'occupation, il y a des séances de cinéma, des ateliers, des débats, des discussions du matin au soir. Et aussi voilà accompagner un peu ça aussi pour éviter de se passer le samedi il y a pas de film parce qu'il y a une expulsion avant aussi donc il faut ou alors voilà qu'on soit présent aussi qu'on soit pas expulsé pendant la séance ça serait aussi
la clé, il faut la défendre une salle d'arrêt.
Il faut la défendre, il faut y être. Voilà, depuis tous les jours de 6h du matin jusqu'à 24h24, le cinéma est occupé depuis 2 ans déjà. Avec des séances quotidiennes.
Voilà, une salle qui risque de disparaître à cause de la spéculation immobilière. Bon, c'est comme ça, je pense que.
Rappelez que c'est le dernier cinéma associatif de Paris. C'est ça que pourquoi la cause elle est importante aussi, parce que ça passe dans ce cinéma, des films rares, on va pas ailleurs aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre l'importance de cette occupation pour défendre ce cinéma, c'est que c'est vraiment un cinéma de quartier, qui a un public spécifique, et avec des films parfois rares, inédits, qu'on ne peut pas voir ailleurs, et s'ils disparaissent, on se demande est-ce qu'on pourra encore voir ces films. Comme
ça,
c'est pas
une
phrase, par exemple.
Fidalgo, merci. Bon, de toute façon, bon, comme la maire de Paris est candidate à la présidentielle, bon, peut-être que. Bon, enfin, bref, j'ai rien dit. Pedro Fidalgo, merci. À très bientôt, alors. Merci. Après, je vous donne rendez-vous le 12, carrément, au cinéma La Clé. Voilà. Oui. À 20h.
À 20h, merci.
Merci bien. Et, que dit une musique también, je pense. Aqui ao direto e bom, se on monte des marches, pourquoi pas? On va monter les marches, s'il te plaît, Manu. Voilà.
Aux marches du palais. Aux marches du palais, y'a une tant belle fille, l'on l'a, y'a une tant belle fille, elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, l'on l'a, qu'elle ne sait lequel prendre.
Marche du Palais Danegar. Viva. E obrigado por estares aqui.
Obrigado, sou eu.
Ora, est-ce qu'il y a des marches ou pas pour rentrer dans le Théâtre Clavel?
Il y a des marches pour descendre.
Pour descendre.
Parce qu'en fait, l'entrée est au niveau du trottoir de la rue Clavel, mais après pour aller dans la salle, il faut descendre.
Bon. Alors, Rock No Mom. Donc tu reprends ça, c'est un spectacle pour des enfants à partir de 3 ans, c'est ça?
Exactement, c'est un groupe qu'on avait monté avec la production 3 Jog 3 il y a une dizaine d'années. Donc on était un trio qui existe toujours, mais le producteur avait envie de donner une formule qui soit peut-être plus exploitable dans les écoles, plus facile à vendre, hein. Il faut dire appelons un chat un chat.
Et donc du coup, bah évidemment, c'est un défi de jouer tout seul. Donc on travaille avec avec des pédaliers au pied, mais bah c'est quand même un plaisir de pouvoir retrouver le public des Loupiots, parce que ils mentent pas eux. Hein, c'est
non, ils savent réagir.
Ça fonctionne ou ça fonctionne pas.
Ils sont pas hypocrites comme les grands. Alors justement, donc Rock No Moon. Du 9 février au 30 mars, ça prolonge un petit peu les vacances de février, non, tout ça?
Je sais pas, je sais que
il y a... Oui, c'est deux semaines.
C'est deux semaines où là, je jouerai tous les jours à 14h30. D'ailleurs, c'est, voilà, il y a 20 dates à partir de mercredi. Les mercredis, c'est 14h30. Samedi, c'est juste un petit peu plus tard, c'est à 15h. Et du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires de la zone C, c'est à 14h30. Voilà.
Alors, pirouette, cacahuète. Bon. Alors, non, je dis ça parce que pirouette, cacahuète. Bon. Non, c'est des choses qui nous ont bercés, façon de parler, ceux qui sont nés ici, en quelque sorte.
Oui, ceux qui sont nés ici, ce qui a été mon cas. Et puis c'est aussi une façon de détourner, puisque on n'a pas repris avec le trio de base, on n'avait pas repris comme c'était. On a rock'n'rollisé les morceaux où
comme un petit peu celui qu'on a entendu maintenant au Marché du Palais, parce
qu'il y avait un côté rythmé, un côté jazzy, ouais, que tu savais bien que je suis plutôt amateur de blues et de jazz, donc du coup, ouais, on a revisité tout. Il y a quelques bossa nova, quelques.
Attends, et qu'est-ce que t'as fait au Sinfon? Je pense que Sinfon, c'est ça.
Eh ben, c'est un reggae. C'est un reggae. Depuis une dizaine d'années, c'est un reggae. C'est comme ça que ça va être joué. Et j'essaie de faire en sorte que les enfants chantent avec moi. Voilà. En trio ou quand je suis tout seul.
Et qu'ils bougent.
Voilà, exactement.
Alors, c'est des comptines. Qu'est-ce qu'on entend par des comptines? Bon, des comptines, effectivement, c'est des chansons, mais est-ce qu'il y aura des petits textes? Tu vas lire des choses?
Non, pas du tout. Là, c'est véritablement ambiance concert. Bon, on n'est pas en trio, mais encore une fois, le challenge m'a été lancé de le faire tout seul. Donc, je suis assisté de pédaliers. Donc, j'ai des chœurs qui sont assurés grâce à une pédale bien spécifique. J'ai un accompagnement basse-batterie grâce à un autre pédalier. Et donc, il va falloir que je mette le feu, entre guillemets, comme le chantait Johnny, de mettre le feu au clavel.
Bon, alors, Dan, je vais te demander quelque chose, parce qu'entre-temps, on a des impératifs aussi.
Oui, bien sûr.
Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'aimerais bien que tu puisses nous chanter, c'est à toi de choisir, le rock'n'roll des Gallinacés, ou alors il y était un petit navire.
Ah ouais, bon, écoute,
on verra ça tout à l'heure. Bon, à tout de suite. On revient en direct et avec nous Danig qui reprend son spectacle Rock'n'Mome. Bon, donc, du 9 février au 30 mars au Théâtre Clavel, rue Clavel, Paris 19, métro le plus proche, Pyrénées, ligne 11. Alors tout à l'heure, je t'avais fait suggestion. Soit le rock'n'roll des Gallinacés où il était petit navire. Voilà, conclusion. Pas de poulailler. On part pas en mer, mais on monte à cheval.
Oui, exactement. It's a place to born. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. Notre pauvre père, pour acheter ce pur sang, avait mis dans l'affaire jusqu'à son dernier franc. Il avait dans la tête
d'en faire un grand champion. Pour liquider nos dettes et payer la maison. Il croyait à sa chance, il engage un stupon. Par un beau dimanche, au Grand Prix de Saint-Paul. Je sais que Stupon va gagner. Quand le vétérinaire d'un seul coup l'acheva, j'ai vu pleurer mon père pour la première fois.
Zidane Cheval Blanc, la composition cherche, parce que l'original, la chanson, mais quand on parle de cette musique et ses paroles, Hugo Frey.
Oui, voilà, la version française. Là, tu m'as posé une colle, parce que, en fait, je sais pas, et donc, du coup, je chercherai, mais la version française, ici, est connue par Hugo Frey, évidemment. Oh,
oui. Vous savez, quand même, quand on parle de rock, etc., ouais, etc., bon, là, monsieur, j'étais pété. Quand je suis tombé dedans, c'est
dans moi. Dans la marmite, exactement.
Non, c'est moi et Astérix. Donc, Obélix, pardon. Obélix, bon, bien que je suis physiquement plus proche d'Astérix que d'Obélix. Rock'n'Môme, j'ai bien prononcé cette
phrase. Oui, voilà, Rock'n'Môme. Comme tu me dis Rock'n'Môme.
Non, parce que pour moi, c'est mal écrit. Bon, c'est pas grave.
D'accord.
Donc, en solo du 9 février au 30 mars, au théâtre Clavel, pendant les vacances de février. Mais, donc, à partir du 9, mais entendons le 12. J'ai entendu dire que le 12, tu es allé être à Krone, à 20h. Le 12, c'est le 12. Oui, le 12, samedi.
Voilà,
12,
pour les 20 ans de l'atelier des Noctambules, porté de main de maître de Nathalie Afonso.
Maître ou maîtresse?
De main de maître, alors évidemment.
Non, rentrons dans le langage inclusif, s'il vous plaît. Bon, donc, toujours été la partie de Voltaire.
Bon, elle me fait le grand honneur de faire appel à ce nouveau répertoire que j'ai monté avec mon harmoniciste Bruno Rouillet, puisqu'en fait, on avait des tas de choses qui étaient prévues. Et c'était aussi l'année le centenaire d'Amalia Rodriguez. Mmh. Et tout ça nous a, on a eu l'idée de s'échanger des trucs via vidéo, via Facebook et YouTube et tout ça. Moi, je jouais de Seine-et-Marne et mon harmoniciste jouait lui de Nantes. Et on mélangeait nos vidéos pour en faire des, voilà, pour fêter le centenaire et d'approfondir cette histoire de fado blues. Et donc. Donc à la base, c'est un duo entre Bruno Rouillet et moi, et il nous manque encore des morceaux à travailler et tout ça. Donc du coup, il y a un petit peu de mon propre répertoire de mes disques, le répertoire de Danninger, donc Dos Santos, on va présenter ça. Ce nouveau répertoire s'appelle Alma Lazuli. Alma, je sais pas au portugais, je vais dire ce que ça veut dire. Lazuli, c'est à côté comme la pierre. Le côté un peu rock, mais c'est le bleu de la pierre, quoi. Lazuli, le côté fa do blues. Voilà, Arna l'âme bleue, si tu veux. Voilà.
Donc ça se passera à partir. Et d'ailleurs, la journée du samedi, je pense que ça se passe au même endroit, 17h rock.
Oui, à l'espace René Fallet, et il y a c'est tout un week-end pour fêter les 20 ans. L'entrée est libre avec le pass vaccinal exigé, évidemment.
Non, c'est pas fini tout ça.
J'espère qu'on en parlera plus d'ici quelques temps.
Il y a plus de jauges, pour moi.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est déjà super cool. C'est déjà, mais qu'on puisse rejouer, c'est déjà parce que j'ai entendu le fameux Olivier là qui est. Je suis super fier de voir autant d'artistes maintenant de parler enfin de ce que les Portugais ont vécu, parce que j'ai l'impression que c'est pas de la gêne, c'est de la pudeur. Moi, je suis d'accord avec lui. Des gens comme Choualam, tout ça, c'est vraiment des gens. Je suis vraiment fier, super fier de voir qu'il y a autant de forces vives là-dessus, quoi.
Et d'ailleurs, tu peux lui dire bonjour.
Tu sais qu'on le voit régulièrement sur les RMG.
Il t'entend.
Salut Alain.
Oui, salut Dan. Bonjour.
Pour te laisser la parole.
Ouais, il vaut mieux aussi.
Pour dire que ce que j'aime chez Alain, donc chez Choualam, c'est son côté artiste enraciné à la terre, quoi, avec le petit côté blues. J'adore ce type. Il faut vraiment ceux qui ne le connaissent pas encore, il faut le découvrir, et il est en concert bientôt. Voilà.
Merci. Ça m'a fait plaisir de t'entendre aussi, magnifique voix.
Merci beaucoup.
Superbe.
Et ancré dans la terre, mais même Vivaldi, bon, mais c'est une autre affaire, ça. Alors, Choualam, d'abord, merci d'être avec nous.
Via
téléphone, bon, la santé fait que c'est comme ça et pas autrement. À propos, ça va mieux? On dit pas au quoi, mais enfin, ça va mieux.
Oui, ça va mieux, merci.
Super. Alors, Choualam, on a un rendez-vous. Ça sera le 10 février à 20h, scène du canal. Se trouve au 116 quai de Gemap à Paris 10. Un concert qui démarre à 20h. Un concert aussi de présentation, nouvel album. Alors, justement, cet album, c'est le fruit de quelle rencontre exactement?
C'est le fruit d'une très vieille rencontre, en fin de compte. Quand on parle d'immigration, forcément qu'il y a des univers qui se rencontrent. De mon côté, c'était l'univers populaire portugais, précisément milandais, puisque mes parents sont de Miranda do Douro, avec l'univers dans lequel j'ai grandi. Donc, on a eu cette chance, comme Dan, toutes les personnes qui ont grandi ici, on a eu la chance de cette double appartenance qui fait qu'on a pu se nourrir à la fois de nos racines portugaises, de cette particularité culturelle, etc., et également de profiter de tout ce qui a pu nous être offert sur le terrain, sur le terreau français. Et en l'occurrence, moi j'ai commencé la guitare classique à l'école de musique de mon petit village, en Seine-et-Marne, et puis j'ai jamais lâché la musique, je me suis professionnalisé, et ensuite j'ai touché au jazz, au lyrique. Donc on peut dire que cet album-là, c'est justement la rencontre entre ma culture portugaise à moi, qui est la culture milandaise, mais aussi mes attractions du côté de Zeca Afonso, par exemple, et aussi tout ce que j'ai pu, tout ce qui a nourri mon parcours de musicien en France et à Paris.
Alors, écoutons.
Echate el baile, te quiero ver bailar, saltar y brincar y andar por el aire. Esta es la tuna de Carlos Frail. Esta es la tuna de Carlos Frail. Busca compañía que te quiero ver bailar, saltar y brincar y andar por la. Busca compañía que la quiero ver bailar, saltar y brincar y andar por la. Esta es la tuna de Carlos Frail. Esta es la tuna de Carlos Frail. Esta es la tuna de Carlos Frail. Esta es la tuna de Carlos Frail.
Un extrait de Frère Cornudo. Alors, Alain, une question. Je connaissais déjà cette chanson, mais c'est complètement différent de ce que j'avais entendu jusqu'à maintenant, ou je me trompe?
Alors, oui, bah d'abord, je l'avais enregistré dans mon album autoproduit, mon premier album, où j'étais tout seul, où je faisais tout seul. Là, évidemment, ça change la donne, dans le sens où l'équipe qui me suit en concert, évidemment, c'est elle qui a fait avec moi, ensemble, main dans la main, cet album. Donc, on entend, par exemple, puisque, évidemment, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'amener le public vers un côté exotique, musique du monde, non pas par exotisme, mais simplement parce que la musique le parle, la musique le raconte en elle-même. Donc, on entend des carcabous marocains, on entend du guembri, qui est un instrument subsaharien, qui est une forme de basse à trois cordes, voilà, un instrument assez archaïque, mais qui a justement un côté très roots qui m'intéressait de donner dans cette chanson, qui est une chanson très ancienne, qui appartient à la province de León, Asturias, du côté espagnol, et qui est une chanson très ancienne, qui trouve ses origines déjà au XVIe, XVIIe siècle.
Mais alors, c'est très important, c'est une découverte, une collaboration, qu'on veuille ou pas, qu'on veuille, si on veut, c'est avec Amadeo Ferrer.
Ah oui, Amadeo Ferrer, c'est quelqu'un que j'ai un peu connu, que j'ai eu la chance de connaître un petit peu. On n'est pas tout à fait de la même génération. Quand j'ai vécu au Portugal pendant un an dans ce coin de Trás-os-Montes, j'ai eu l'occasion de le rencontrer déjà, mais il faisait beaucoup de choses très différentes. Et puis c'est vraiment, il a tracé son sillon du côté de la poésie, parce que c'est un poète à part entière. C'est quelqu'un qui a édité beaucoup. Il a enseigné la langue mirandaise à l'université de Lisbonne. Et il a quelque chose qui est à la fois enraciné vraiment dans la culture mirandaise, c'est-à-dire qu'il la connaît très très bien, et tous ses poèmes tournent autour de la terre. On pourrait le considérer comme un poète naturaliste, comme Ricardo Reich, l'hétéronyme de Pessoa, lui-même était nourri par cette tradition pessoienne. Il a écrit sous divers hétéronymes, et le plus connu, avec lequel il a édité, etc., c'est Francisco Nibre. Et donc voilà, donc je mets en musique ses poèmes, et il a écrit aussi des chansons que son frère Carl Freire a mis en musique. Donc il y a aussi cet univers-là dans le disque et dans mon concert.
Alors, ce disque va être présenté, je rappelle, le 10 février à 20h à Scène du Canal, c'est à Paris 10, 116 Quai de Gemap.
Oui.
Alors, il y a Zac Afrance, bien entendu, il est présent, José Afrance. Alors, une version de Cantigas de Mai, 7 minutes 18. Donc, c'est-à-dire, il y a la base, il n'y a pas une improvisation, c'est-à-dire là où on est parti vraiment dans le royaume de la musique, tout court.
Ah ouais, merci. Oui, si c'est dans le royaume de la musique que j'amène l'auditeur, bah c'est un honneur, tout à fait.
Mmh. Alors sans oublier, parce que quand j'ai écouté Seigneur Archange, j'ai dit mais attends, c'est Seigneur Archange, José Afrance, qu'est-ce que je suis en train d'écouter?
Pour moi, c'est très important. Donc moi, j'entendais Ben tout à l'heure parler à la fois de son travail de réinterprétation des comptines enfantines, et puis je connais aussi voilà un peu son travail que j'aime beaucoup, etc. Ce qui est important quand on fait une interprétation, c'est d'écouter son cœur, de pas le faire avec sa tête. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces paroles et cette musique, à quel endroit elles m'emmènent moi, Show Alain, à quel endroit, et pas, y a pas de projet derrière en me disant, tiens, je vais faire quelque chose de différent de Zec pour pas faire la même chose que lui, donc comment je pourrais, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La chanson me plaît, elle me parle, je la connais depuis longtemps, et un jour, elle vient toute seule à moi, et j'en fais quelque chose, en l'occurrence de plus lent, parce que il me semble que le texte a besoin. Zec Afrance, c'est un magnifique interprète. Et Zec Afrance, qui interprète ses chansons à cette vitesse-là, eh bien, on l'écoute. C'est un conteur, un peu comme pouvait l'être à sa manière Brassens, en plus d'être un vocaliste. Zec Afrance, c'est un magnifique vocaliste. Moi, j'ai besoin, pour servir ce texte, de ralentir le tempo et je rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus éthéré, beaucoup plus espacé. Voilà.
Mmh. Alors tout à l'heure j'ai cité Vivaldi, mais justement. Et là, c'est quelque chose, c'est très intéressant, la façon qu'on vous jouez avec votre voix.
Alors, oui, bon, moi, j'aime jouer avec ma voix depuis toujours. Hein, c'est-à-dire que la chanson, c'est une des manières d'utiliser sa voix, à mettre du texte dessus, mais encore un autre lien avec la petite enfance et Dan, justement. Moi, je suis fasciné par la manière dont les enfants, sans aucun tabou, sans aucune arrière-pensée, aucun jugement, se mettent à jouer avec leur voix dans la toute petite enfance. C'est le plaisir vocal, le plaisir kinesthésique, le plaisir de ressentir les vibrations, le plaisir de transformer la matière vocale, parce que elle peut être lisse, comme tout d'un coup, elle peut devenir plus rocailleuse. C'est j'entendais aussi le lien avec Nathalie Fonce, c'est un travail de la matière, comme peut être la matière picturale, la peinture, la sculpture, comment la voix et c'est ça qui m'intéresse à ce moment-là, évidemment, en lien, c'est pas gratuit, c'est en lien avec le thème de la chanson, et ma voix m'amène du côté des vocalistes, ouais.
Joël, merci. Donc, la présentation de l'album sera faite le 10 février à 20h, scène du canal 116 quai de GEMAP à Paris 10. Nouveau travail qu'on peut le trouver par ailleurs ou pas?
Alors, pour l'instant, pas de distributeur, mais ça ne serait tardé. En tout cas, j'attends le public nombreux avec grand plaisir de partager ce moment de fête et aussi de recueillement, avec ce chouette public qui me suit et puis celui que j'attends de découvrir. Abrazo, Arthur.
Merci bien, Chualam, et on se donne rendez-vous, comme j'ai dit, le 10 février, scène du canal 116, quai de GEMAP. Ça, c'est le 10, mais avant, mes amis, bon, à partir du 7, c'est autre chose. Hein, rock and moom, mais on va en parler encore un petit peu.
On dit, quand sera, hey, de tornar. Estas penhas, estas feias, ala de ar feito, silêncio largo, libertado e há de palavras. Chuto de angúrias. Recheou na pele tira. Estarei por ende calhado entre flor de char e bilhetrico de nibro até que espirte o rio. Caixones, muita lá, las oliveiras. Quinha vi de guardar modas e sudor. Escudar la negra mancha de fama. Olhar carinhos que faziam as urtas com sorreios no rio.
Quand je traite du nouveau album de Scholem, le titre, bon, je vais le dire, bon, je parle pas mirandais, on en parle mirandais, mais enfin, un dia, bon, j'espère que non t'aigne, si, probablement, bouteille, Bon, Bottom the Busted Boy. Solam va présenter cet album dans un concert le 10 février à 20h, c'est du canal 116 quai de Gemap à Paris 10. Mais avant le 7, là, ça va être au théâtre
Clavel. Le 9 février, mercredi.
On dit le 9, pourquoi je dis le 7?
9, c'est mercredi prochain, 14h30. Voilà.
Donc le 9 février jusqu'au 30 mars, Rock and Boom. Alors avec tout un tas de chansons, on a déjà eu un petit aperçu tout à l'heure.
Oui,
alors,
ça fait partie des chansons voilà, anecdotiques. Il y a Hugo Frey, il y a Henri Salvador, mais le gros des chansons, c'est une revisite des comptines françaises que tout le monde connaît en principe.
Pirouette, cacahuète.
Qui est là devenu un rockabilly. Hein,
Ok, et Dan, je te remercie. Donc à partir du 9, au théâtre Clavel, 3 rue Clavel, Paris 19, métro le plus proche, c'est Pyrénées, ligne 11. Et merci au Manu aussi, qui est de l'autre côté, c'est grâce à lui. Merci à tous ceux qui ont entendu l'émission. À très bientôt. Merci, Dan.
Merci à toi, Noël.
Et quand on dit en portugais, baignage. Midley.
Il court le furet du bois m'éteint. Il court le furet du bois joli. Il est passé par ici. Il repassera par là. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du fin et du bien râpé, mais ce n'est pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le genou. À la mode, on les plante avec le genou. À la mode de chez nous. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pain. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pain. Drop it, drop it. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pain.